Bonjour Cléon Mao Takahashi.
Bonjour.
Merci de recevoir la revue du spectacle.
Un plaisir.
Vous êtes un jeune chef d'orchestre, vous êtes à la tête du Sécession Orchestra que vous avez créé en 2011. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. J'ai commencé en fait assez tôt, à l'âge de 5 ans, par de la percussion. J'ai fait ensuite du violoncelle, de la clarinette, du cor, différents instruments. Le piano, je suis rentré dans une maîtrise de garçon, et puis bien sûr toutes les disciplines théoriques, les disciplines de composition, d'orchestration, et puis évidemment la direction d'orchestre très tôt. Voilà un peu mon parcours, et puis j'ai commencé assez vite à travailler. Dès l'âge de 13, 12, 13 ans, j'ai dirigé mes premiers ensembles, et puis à 15 ans, j'ai donné un concert à Salle Gaveau. Avec un orchestre de jeunes, déjà, et puis ensuite, vers l'âge de 20 ans, je suis parti à Budapest et puis à Rome, où là, j'ai travaillé sous l'égide de deux maîtres, notamment Janos Komivesh et Gianluigi Gelmetti, et ça a été extrêmement formateur. C'est ce qu'on appelait en fait la formation à l'ancienne des chefs d'orchestre, que les grands chefs d'orchestre ont fait. C'est pas que ça vous fait devenir grand, mais ça vous donne une densité, une connaissance de répertoire et une faculté de réagir à différentes situations que l'opéra propose, en fait.
Comment naît l'envie d'être chef d'orchestre ?
Ah, c'est compliqué. Si j'en crois une vidéo pirate de mon grand-père, à l'âge de 3 ans, on me voit agiter un bâton sur une musique. Mais je ne pense pas que ce soit là qu'il faille trouver le ferment de ma vocation. Par contre, j'ai chanté, il se trouve que j'ai chanté la troisième de Mahler quand j'étais dans un Knabenchor, donc, sous la direction de Abbado, sous la direction de Ozawa, à peu de mois d'intervalle à Paris, puisqu'on a une programmation assez riche à Paris. Et je suis rentré chez moi en disant à maman que je voulais être compositeur et chef d'orchestre. D'ailleurs, c'était plutôt compositeur la première fois. Et là, elle m'a donné une aspirine, m'a mis au lit. Et quand j'ai réitéré en disant que je voulais absolument faire comme Mahler, parce que je m'étais renseigné entre-temps, et je voulais être compositeur et chef d'orchestre, et que ça m'intéressait de diriger cette centaine, 120 musiciens, là, il y a eu un conseil de famille quand même, parce que ça devenait inquiétant. Et donc ensuite, on a fait un pacte. Je continuais mes études classiques, mais mes parents me soutenaient en musique, et ils me soutiennent toujours d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué à faire des études universitaires, même après, parce que ça rassure les parents, parce que chef d'orchestre, ça reste quand même un peu difficile comme perspective de carrière quand vos parents ne sont pas forcément musiciens eux-mêmes. Ma maman était historienne de l'art, mon papa médecin. Très mélomanes tous les deux, très larges, parce que ça allait des Pink Floyd à Berlioz ou à Boulez, mais pas musicien d'une famille de musiciens. Donc c'était un autre monde.
Vous avez fait forte impression ce week-end avec l'atelier de musique. C'était le jeune soliste en renfort du Sécession Orchestra, au Festival de Deauville, donc. Vous avez choisi les Wesendonck-Lieder avec la mezzo Irina de Baghi. Et surtout, vous avez été formidable dans la première de Mahler, la Titan. Tous les critiques sont unanimes. C'est pas hyper exigeant, ce programme ?
Ça, c'est ce que j'adore avec Yves Petit-Devoise. C'est que...
Le directeur
du Festival de Deauville, c'est que... ensemble, on est deux fous. Donc, l'un entraîne l'autre dans une folie croissante. Et donc, quand il m'a proposé de réfléchir à un programme, évidemment, moi, Mahler s'est imposé parce que c'est un de mes chéris. C'est une des musiques que je préfère au monde. Et donc, il y avait cette symphonie qui fait quand même 55 minutes. Donc, ça, il faut trouver une première partie de programme qui soit... pas seulement pour les musiciens, mais aussi pour le public, plutôt une progression et pas forcément quelque chose qu'on leur assène et qui va alourdir le programme. Et donc, naturellement, le grand admirateur de Mahler, de la génération suivante, c'est Webern. Et donc, la Passacaille, qui est le premier opus, comme la Symphonie 1 de Mahler est quasiment son premier opus, à part quelques leaders, ça faisait sens, puisqu'on avait là aussi l'atelier de musique, CCC Orchestra, moi-même, tout cet esprit de la jeunesse. Et puis, les Wesendonck-Lieder de Wagner, qui sont en fait la référence un peu cryptée qu'on trouve chez Mahler, puisque c'est... référence à la nature, référence à l'amour, mais et à cet amour un peu panthéiste d'ailleurs, que traduisent bien les Vezendonck, et puis cette partition un peu cachée de Tristan qu'on retrouve un peu dans la Passacaille, et qu'on retrouve de Webern, qu'on retrouve dans les Vezendonck, donc voilà. Et puis Yves voulait absolument que je rencontre la mezzo-soprano Irina de Bagui, avec qui on s'est très bien, le courant est très bien passé, on s'est très bien entendu, et donc quand on peut faire de la musique dans ces conditions, c'est idéal.
Et je dirais qu'il y avait 40 musiciens.
Hein, oui, il y avait une quarantaine de musiciens.
Dans la fosse, et honnêtement, ça sonnait comme s'ils étaient trois fois plus nombreux, comme le voudrait la version originale, non retranscrite.
Ah oui, mais on est passé de 120, 130 musiciens à 35 en réalité. Donc c'est une prouesse, mais ça c'est possible parce que...
c'était magnifique.
Tant CCC Orchestra que l'atelier de musique, les forces qu'on a conjuguées sont des musiciens exceptionnels. Je veux dire, le premier corps que vous avez entendu, c'est le corps solo du National de Lyon, qui a commencé, si vous voulez, entre guillemets, avec moi au CCC Orchestra, mais qui continue à venir pour faire des séries avec nous, parce qu'il aime l'esprit de sécession.
Rappelez-nous son nom.
Alexis Crouzil. Il est juste extraordinaire, parce que, je veux dire, sur une symphonie où il n'y a pas une facilité... Ou une simplicité dans la partie de corps de Mahler, parce que Mahler écrit des choses mais quasiment injouables déjà à sept corps, mais alors quand vous êtes à deux corps, je pourrais pas tous les citer, le contrebassiste Benoît Lévesque est formidable, mes deux premiers violons aussi, si vous voulez, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'y en a pas un, et c'est ça aussi que les critiques ont ressenti apparemment, qu'il n'y en a pas un qui n'ait pas le même engagement de la première à la dernière note, et le même amour de la musique. Et ça, c'est très précieux, et c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer. Enfin, moi, ça fait partie de mon travail, d'essayer même avec un orchestre, avec des gens qui connaissent ces musiques depuis plus longtemps, qui jouent depuis 40 ans, d'essayer de retrouver cette flamme systématiquement. Et c'est le rôle du chef d'orchestre d'activer ça.
Vous êtes compositeur aussi, Clément.
Mm-hmm. Oui. J'ai tous les vices.
Pianiste et compositeur.
Je suis pianiste et compositeur. Oui, j'ai continué ma carrière de pianiste soliste et chambriste jusqu'à aujourd'hui. Là, ensuite, c'est toujours compliqué. On est obligé à certains moments de faire des choix pour plein de raisons, des raisons temporelles, des raisons aussi d'emploi du temps, de spécialisation aussi, parce que c'est difficile pour les gens, sauf quand vous avez l'aura de Barenboim, de comprendre que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. J'en ai parlé une fois avec des gens comme Christophe Eschenbach, qui continue sa carrière de pianiste, et les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse faire les deux activités. Et pourtant, elles sont liées. Enfin, pour moi, c'est logique d'accompagner dans une répétition, seul à seul, Irina Debagui, par exemple, et ensuite de la diriger. Et c'est là qu'on obtient cette ductilité, cette souplesse. Voilà, et donc j'ai continué ma carrière de pianiste, même si peut-être je vais m'en éloigner un peu maintenant. Et là, je viens de faire une pas une tournée d'adieu, mais une magnifique tournée avec la soprano Mobello dans toutes les plus grandes salles d'Europe, du Musikverein au Concertgebouw.
Ouais, c'est le Rising Star.
C'est le Rising Star, donc ça c'était... Et puis en plus, on a été accueillis avec standing ovation à chaque fois, donc c'était un pur bonheur dans ces maisons qui sont quand même, pour nous, musiciens mythiques. Et donc c'est très agréable de voir ça. Et puis c'est vrai qu'en tant que pianiste, je ne défends pas forcément le répertoire de mes collègues. Je défends un répertoire qui est moins connu, les Sandin de Mitte, la musique de Sibelius, celle de Castelnuovo Tedesco. Enfin, c'est vrai que j'essaie de prendre des chemins de traverse en leur laissant leur pain quotidien qui est Chopin. Je préfère dernier liste par exemple au premier liste, mais bon. Voilà. Et comme compositeur, oui, je continue. Pour moi, c'est le même métier avec des différentes facettes. C'est juste que je partage des choses différentes. Le piano solo est une discipline face à soi-même. La composition et l'orchestration sont des disciplines aussi particulières, qui se rapprochent presque plus de la cuisine. La direction d'orchestre, elle, est un moyen justement de ne pas diriger directement un orchestre, plutôt de diriger un méta-instrument qui est de diriger cet ensemble génial, comme un orgue en fait, où il y a différentes couleurs. On tire les jeux de l'orgue. Voilà.
Je crois que vous avez une attention toute particulière à la musique contemporaine et aux compositeurs contemporains.
Oui, parce que je crois qu'il y a une rupture qui s'est faite en fait en, Non pas à cause de la modernité de la musique, parce que je crois que la modernité de la musique a toujours créé des scandales. Exemple, la première symphonie de Mahler, qui a dû être un scandale, parce que quand vous vous attendez à entendre une première symphonie romantique et que vous arrivez avec un son qui est en fait la vibration de l'air un matin d'été, ça a dû, le public berlinois et viennois a dû être quand même assez surpris. Mais quand vous avez la symphonie de Beethoven qui commence par un accord de septième de dominante, c'est la même chose, c'est un choc absolu. Donc la musique a toujours choqué, et puis ensuite c'est rentré dans les mœurs. Mais je crois que depuis 1945, en fait, il y a eu, avec ce qu'on appelle la entartete musik, c'est-à-dire la musique considérée comme dégénérée par les nazis, il y a eu une sorte d'ostracisme, une sorte de mise à l'écart de certaines musiques. Et des compositeurs comme Schreker ne sont toujours pas joués, Hindemith, même Millau, ne sont toujours pas joués comme ils devraient l'être joués aujourd'hui. Même Mahler a mis quand même, c'est dans le début des années 70 que Bernstein commence à l'imposer à Vienne, donc c'est très tardif. Et presque contre la volonté des orchestres. Et donc on n'a pas digéré, en fait, je crois, quasiment presque 70-80 ans de musique. Et ça explique que les auditeurs n'aient pas cette habitude de la musique. Donc il faut réussir à jouer les compositeurs contemporains et en même temps jouer la musique moderne de notre temps pour relier les deux. Et je pense toujours aux enfants qui, quand vous leur montrez un tableau de Picasso ou une gravure de Térias, bon, ils ont aucun problème à l'accepter. Et je pense que là encore, c'est lié totalement à l'éducation, à la façon dont on crée un terreau favorable pour la culture. Mais jouer les compositeurs, les fréquenter, pour moi, j'ai la chance par exemple de beaucoup travailler sur l'œuvre de Caillassariao. Là, je vais travailler aussi beaucoup sur l'œuvre de Pascal Dussapin. En plus, ce sont des grands maîtres de notre temps. Donc, ils ont un poids, une science, une parole intéressante. Ils ont une écriture qui est fascinante, qui est très diversifiée. Et c'est jouissif de pouvoir leur proposer aussi un instrument comme ces sessions orchestra où je peux jouer leur musique avec un temps de répétition qu'ils n'ont pas toujours dans la musique contemporaine et qui permet in fine d'interpréter la musique. Et c'est vrai que moi j'interprète Sario comme j'interprète Brahms, Debussy, Mahler. Et c'est pas du tout le phénomène d'une lecture concert comme souvent on le fait dans la musique contemporaine pour des raisons économiques et aussi de qualité parce qu'il faut en jouer beaucoup et voilà. Mais.
Alors, quels sont vos projets en tant que chef d'orchestre dans les mois qui viennent?
Alors,
Ou même dans les années?
ah, il y a des, il y a des, là, il y a des jolies choses qui se dessinent. Bon, évidemment, je continue avec flamme et ardeur à diriger ces sessions orchestra qui croient en beauté et en force, comme une jolie fleur. Et je l'arrose, voilà. Mais donc il y a beaucoup de concerts prévus. Là, on sera notamment cet été, on sera en Croatie pour un festival de musique contemporaine. On sera aussi en Corse. On retrouvera aussi début septembre le festival Classico-Vert pour le dernier week-end.
Le
Voilà.
festival Classico-Vert.
Voilà le festival Classico-Vert dont on fera la fermeture. Et puis on va faire aussi. Puis là, il y a pas mal de pourparlers avec des orchestres français et étrangers. Voilà, il y a des questions de direction musicale qui sont en réflexion, on va dire. Voilà.
Merci Cléon Maouk-Takache.
Merci Christine.